Je ne sais pas si vous connaissez cette image. On l'appelle le bouclier de la Trinité ou le symbole d'Athanase. Mais je pense qu'on retient plus facilement le bouclier de la Trinité. Il montre visuellement ce que les chrétiens croient. Nous croyons en un seul Dieu, mais un Dieu trinitaire. Voilà. Et donc un Dieu, trois personnes. Parmi les trois personnes qui constituent ce Dieu unique, vous voyez dans le bouclier, le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu et le Père est Dieu. Parmi ces trois personnes qui constituent ce Dieu unique, il y en a deux dont on parle tout le temps, et puis la troisième, dont certaines églises parlent beaucoup et dont d'autres ne parlent pas beaucoup. J'ai nommé Dieu l'Esprit. Sophie en a parlé à l'instant, donc ça c'est super. Mais c'est vrai que les églises qui parlent beaucoup de l'Esprit sont des églises qu'on dit pentecôtistes ou charismatiques. Et dans ces églises, on s'attend à ce que le Saint-Esprit se manifeste de manière assez extraordinaire, de manière assez régulière, pour aider les chrétiens. L'accent est mis sur la recherche et sur l'accueil des dons spirituels, des dons du Saint-Esprit. Pour les églises évangéliques dites classiques, dont nous faisons partie, on pense aussi que le Saint-Esprit agit aujourd'hui, mais de manière plus discrète, en aidant les chrétiens au quotidien à vaincre le péché qui est en eux et à toujours ressembler à Jésus. Ça fait un siècle que la vision extraordinaire et la vision plus ordinaire de la vie de l'esprit s'affrontent ou coexistent selon les époques. Aujourd'hui, c'est la coexistence et la collaboration qui priment. Ça, c'est vraiment génial, super. Dans l'Orléanais, ça fait 30 ou 40 ans que toutes les églises évangéliques s'entendent extrêmement bien. Mais cela ne nous empêche pas de nous poser une simple question. Comment le Saint-Esprit se manifeste-t-il normalement dans l'Église d'après la Bible? Comment le Saint-Esprit se manifeste-t-il normalement dans l'Église d'après la Bible? Pour répondre à cette question, nous allons méditer un des passages qui répond le mieux à cette question, un des passages qui parle le plus du Saint-Esprit. Et nous allons l'analyser en prenant un maximum de hauteur afin de bien comprendre le message principal que l'apôtre Paul veut adresser. Il y a plein de questions polémiques dans ce passage que je n'aborderai bien sûr pas du tout par manque de temps, mais je peux les aborder après le culte si vous voulez. Mais en tout cas, on va justement prendre pas mal de hauteur. Hop. Et voilà, ça marche. Donc nous allons lire dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13. Et dans cette section de la lettre aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul répond à une question pertinente des Corinthiens. Comment se peut-il que nous ayons des dons spirituels si diversifiés, si différents, s'il n'y a qu'un seul Dieu? En effet, les Corinthiens viennent d'une spiritualité polythéiste, avec un Dieu pour chaque domaine de la vie. Et donc, la diversité de la vie va avec la diversité des dieux, polythéiste. Mais avec un Dieu unique, comment gérer la diversité? S'il y a plein de manifestations spirituelles différentes à l'intérieur de l'Église, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux dans l'Église? Ou avec un Dieu unique, est-ce que ça veut dire qu'il y a une bonne manifestation et que le reste de toutes les manifestations sont mauvaises, voire sataniques? Comment faire avec les différentes manifestations de l'Esprit? Voilà la réponse que Paul va nous apporter. Et on va le lire, ce passage, de manière assez dynamique. Vous allez voir. Pour l'instant, c'est tout à fait normal. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, quand vous étiez des non-juifs comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « anathème à Jésus » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Je fais une pause dans notre passage. J'ai essayé visuellement de vous montrer les choses sur lesquelles Dieu veut vraiment appuyer. Vous avez remarqué qu'il appuie beaucoup sur l'esprit. Il le répète plein de fois. Et donc, il appuie simplement sur deux choses. La diversité et l'unité. Il y a plein de dons. Il les cite. C'est pas du tout exhaustif. Mais il y a un seul esprit. Et donc on pourrait résumer en disant que la vie de l'esprit, c'est la diversité dans l'unité, l'esprit distribue à chacun en particulier comme il le décide, donc c'est le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité, qui distribue des dons aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent le servir comme il le décide. C'est lui qui décide, c'est pas les enfants de Dieu qui décident quels dons ils doivent avoir. Et pour un seul but, pour l'utilité commune. L'utilité commune, l'utilité de l'Église, de la communauté locale. Mais il ne s'arrête pas là et il continue avec une métaphore. Et nous allons voir cette métaphore.
Ça, c'est bizarre.
Je suis en panne. Suis-je en panne? Ah. Ça vient de figer.
Ah zut, c'est un peu embêtant parce que...
Tout est fondé sur l'image. continue à son explication. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grec, soit esclave, soit homme libre, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence. Tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Donc vous avez vu, Paul utilise l'image, la métaphore du corps pour la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, premièrement, c'est plein d'organes et un seul corps, c'est-à-dire du coup la complémentarité. Voilà. Beaucoup de, et donc en fait, il rappuie sur ce qu'il a dit avant, beaucoup de dons, beaucoup d'organes, mais qui forment une unité. Voilà, on peut pas couper le corps, sinon en fait c'est plus un corps. Donc il y a vraiment une complémentarité entre les organes. La conséquence de cela, c'est que du coup l'exclusion est absolument impossible. L'exclusion des uns par les autres ou l'auto-exclusion. Vous avez remarqué, il parle des deux. Sinon le corps serait dysfonctionnel, il serait beaucoup moins bien. Donc on ne peut pas exclure certaines parties du corps, certains dons, parce qu'ils ne plaisent pas à d'autres. C'est pas possible. Quand on fait partie du corps, on n'a pas le choix. On fait partie du corps. Et Paul enfonce le coup en disant que Dieu a voulu cette richesse. Ce qui est assez bizarre, parce que on s'attendrait à ce que Dieu, voilà, y ait une manière de faire, et puis c'est comme ça, et puis comme ça, il n'y a pas trop à réfléchir. Mais en fait, on s'aperçoit que Dieu a voulu cette richesse. Il a préparé ce concept de l'Église, une espèce de pétaudière, avec des gens tellement différents. Il en a fait exprès, pour que ce soit riche. Et du coup, eh bien, il y a une solidarité obligatoire. Une solidarité obligatoire, ça veut dire que même avec des dons différents, même si en fait il n'y a pas forcément des accointances entre tous les membres du corps, il y a une solidarité obligatoire parce que dans un corps, eh bien tout est solidaire. Et j'ai deux exemples que je sors assez régulièrement quand je parle de ce sujet. C'est l'exemple du gros coup de marteau sur le doigt. Quand vous mettez un gros coup de marteau sur le doigt, c'est uniquement votre doigt qui saigne, qui est à la rigueur écrasé, mais c'est tout votre corps qui crie. Voilà, ça ne concerne pas que votre doigt, c'est tout votre corps. Et de manière plus positive, le massage cervical, vous êtes bien tendu, vous n'allez pas très bien, un bon massage cervical, ou selon un massage des pieds, ou moi j'aime beaucoup le cuir chevelu, ça vous détend absolument tout. Voilà, solidarité obligatoire. Quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Quand un membre du corps est glorifié, tout le monde est glorifié. Voilà, hop là. C'est encore bloqué. C'est embêtant quand même. Apparemment, il n'aime pas trop les pauses. C'est bon. Et donc, regardez les dons que Paul égrène dans l'Église. Il égrène ses dons pour dire que voilà, il y a une vraie diversité de dons dans l'Église. Et il dit du coup au verset 29 et 30, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils maîtres? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est non, en fait. C'est une question oratoire. Il ne dit pas non, hein, mais la réponse est non. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. Et donc, verset 31, passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Je m'arrête simplement à cette avant-dernière phrase. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Si les dons du Saint-Esprit sont faits pour servir l'Église, si nous sommes habités par le Saint-Esprit, nous devons nous passionner pour servir l'Église. Nous devons nous mettre au service de l'Église. C'est la vraie condition, le vrai signe finalement que le Saint-Esprit habite en nous. Nous rendons service à l'Église. Et donc, je vous mets tous les dons qui ont été jusqu'ici énoncés par Paul, depuis le début de notre passage. Ce n'est pas du tout exhaustif, je le rappelle, mais n'empêche, voilà, il rappelle tous ces dons-là. Et donc, une fois qu'il a énoncé tout cela, eh bien, il va sur 1 Corinthiens 13, le passage qui parle de l'amour, qui est lu parfois pendant les mariages, et c'est une très mauvaise idée, vous allez voir pourquoi. Donc 1 Corinthiens 13, voilà ce que Paul dit, voilà la manière finalement de vivre les dons d'après Paul. Quand je parlerai la langue des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est bon. L'amour n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Voilà comment vivre les dons dans l'Église. Avec amour. Amour pour Dieu, bien sûr, mais amour pour les autres membres du corps. Sans amour, le don le plus performant ne sert à rien. Sans amour, le meilleur usage des meilleurs dons est totalement vain. Et c'est logique, comme les dons du Saint-Esprit sont faits pour l'Église, les pratiquer sans amour équivaut à les utiliser contre l'Église. La condition sine qua non pour bien œuvrer au sein du corps du Christ, c'est donc de se rappeler pourquoi on œuvre. C'est-à-dire pour le bien des frères et sœurs dans la foi, les autres membres du corps. Et cela rejoint la notion de bon qu'on voit dans la Genèse, quand Dieu dit que tout ce qu'il a créé est bon. La création est bonne parce qu'elle est harmonieuse. Parce que toute la création travaille ensemble, toute la mécanique des créatures glorifie parfaitement le Créateur. Et le péché, justement, apporte la malédiction précisément parce qu'il rompt cette harmonie de la création. Il y a désormais un bug dans la création, car les humains veulent être au centre du monde à la place de Dieu. Il n'y a plus cette harmonie. Et les chrétiens de Corinthe sont dans cette lignée, connaissent ce danger. C'est pour ça qu'en fait, c'est assez bizarre de lire 1 Corinthiens 13 lors d'un mariage, parce que 1 Corinthiens 13, c'est une manière pour Paul de mettre une gifle aux chrétiens de Corinthe et de leur dire, avec tous les dons que vous avez, même si vous pratiquez plein de sortes de dons, même si vous êtes très doués dans certaines choses, si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert strictement à rien. Rien du tout. C'est un tacle, 1 Corinthiens 13. En résumé, donc, la diversité dans l'unité pour l'utilité commune, ce qui veut dire, quand on dit diversité, ça ne veut pas dire discrimination, voilà, ça veut dire diversité, ça ne veut pas dire discrimination, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que des dons sont supérieurs à d'autres, ça ne veut pas dire division, et quand on dit unité, ça ne veut pas dire uniformité, voilà, ça veut dire unité, ça veut dire on maintient cette tension entre la diversité et l'unité, donc ça ne veut pas dire uniformité, et ça ne veut pas dire du coup ce qu'on appelle le réductionnisme, c'est-à-dire tout réduire à un seul des dons. Voilà. Quelqu'un qui va avoir, je ne sais pas, un don de prédicateur pourrait dire, bon, en fait, si tout le monde n'est pas prédicateur, eh bien, on est un sous-chrétien si on n'est pas un prédicateur. Voilà, c'est ça le réductionnisme, c'est réduire tout à un seul don. Et donc, en résumé, pour savoir si quelqu'un est animé par le Saint-Esprit, il ne faut pas regarder la forme de ses dons, mais plutôt pour qui il les met en pratique. Et la bonne réponse, c'est pour Jésus. Et aussi, il faut regarder dans quel but il les met en pratique. Et la bonne réponse, c'est pour l'utilité commune, pour l'Église. Alors une fois qu'on a compris ça, il y a des conséquences pratiques, des applications pratiques qu'on peut en tirer. La première, c'est que la personnalité de chacun dans l'Église est précieuse. Et là, je vais prendre un peu moins de hauteur, je vais donner mon avis. Je pense que les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit, mais je pense que le Saint-Esprit ne fait pas descendre un truc comme ça un peu surnaturel chez des personnes. Je pense qu'il utilise aussi notre caractère qui existait déjà avant notre rencontre avec Jésus, notre culture, nos dons naturels. Et je pense que le Saint-Esprit les redirige, notre caractère, nos dons, nos talents naturels, pour le service de Jésus. Et du coup, dans l'Église, la personnalité de chacun est précieuse. Pour bien servir Dieu et son prochain, dans l'Église, il suffit d'être soi-même. Certes, être la meilleure version de soi-même, la version de soi-même renouvelée, transformée par le Saint-Esprit, et qui pousse à ne plus chercher son propre intérêt, mais être soi-même tout de même. Pas besoin d'attendre d'avoir atteint un certain niveau de perfection, pas besoin de chercher à ressembler à quelqu'un d'autre, il faut simplement laisser l'Esprit-Saint utiliser les traits, nos traits de caractère, nos compétences, des qualités qui sont déjà présentes en nous pour le service de l'Église, pour glorifier Jésus. On pourrait même dire que nous sommes déjà prêts à l'emploi dès notre conversion. Le Saint-Esprit nous assigne des tâches, nous assigne la place qui est adaptée à notre maturité spirituelle. Et cette réalité est réjouissante car elle favorise l'estime de soi. Elle nous permet ainsi de profiter des qualités, des dons que nous, des dons des autres que nous n'avons pas, qui sont présents chez les autres, quoi. Voilà. Ça qui est super, c'est que dans l'Église, en fait, on n'est pas appelé à tout faire. Eh bien, on peut se réjouir des dons que nos frères et sœurs ont parce qu'on ne les a pas. Et donc, nous sommes incomplets sans ceux qui sont autour de nous. Mais la personnalité de chacun est aussi forcément irritante. Si chaque membre est utile pour former le corps de Christ, il est tout à fait logique qu'avec tant de différences, des tensions surgissent. Il y a des profils de personnes qui ne s'accordent pas facilement. Il y a des styles diamétralement opposés. Et ça, c'est le prix de la diversité, c'est normal, Dieu l'a voulu. On peut même dire que nous devrions nous réjouir de tous ces frères et sœurs qui nous énervent. Car l'irritation qu'ils provoquent est la preuve même de leur utilité à nos côtés. Ils sont ce que nous ne pouvons pas être. Ils font ce que nous ne pouvons pas faire. Et ils seront donc bien plus utiles que nous dans certaines situations. Donc réjouissons-nous quand il y a des tensions. Réjouissons-nous quand voilà, certaines personnes nous énervent. Réjouissons-nous parce que ça veut dire qu'elles servent vraiment à quelque chose. Alors je dis ça avec ironie parce qu'on n'a pas le réflexe de se réjouir. Mais je pense qu'on devrait aussi penser à cela quand certains traits de caractère nous énervent. Enfin, la personnalité de chacun permet de grandir ensemble. Dans l'Église, nous ne pouvons pas être amis avec tout le monde et vivre ensemble demande parfois de gros efforts, mais n'oublions pas que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. La métaphore du corps de Christ nous montre la cohérence de l'Église en tant que projet de sanctification. Lutter contre le péché qui nous pousse à vouloir un entourage qui nous ressemble. Un entourage qui ne nous dérange pas, qui ne nous fait pas d'ombre, mais au contraire, accueillir une interdépendance bien plus inconfortable. C'est ça le projet de Dieu. D'ailleurs, plus nous pensons à nous et notre confort, plus la situation est difficile à vivre. Alors que si nous pensons à Jésus, notre tête, la tête du corps qui est l'Église, la sérénité peut revenir. Car nous ne devons jamais oublier que l'Église est là pour faire grandir le royaume de Dieu. Elle n'est pas un parc d'attractions pour amuser les chrétiens, pour caresser les chrétiens dans le sens du poil. Si j'ai été sauvé, c'est pour servir mes frères et sœurs dans la foi, ainsi que mon prochain qui ne connaît pas encore Jésus. Cette mission détourne mon regard de mon nombril et me pousse à devenir un serviteur qui imite son maître, Jésus, qui a avant tout pensé à ceux qu'il allait sauver, qui n'a pas pensé à son propre nombril. En nous laissant utilisés par Jésus, nous sommes progressivement guéris de certaines blessures, délivrés de certaines addictions, affinés dans notre caractère, aiguisés dans nos compétences. Quels moyens Dieu utilise-t-il la plupart du temps pour arriver à ses fins, pour notre sanctification ? Tout ce que nous vivons, de plus ou moins positif, dans l'Église, avec nos frères et sœurs. Donc c'est vraiment réjouissant, la vie de l'esprit. Et c'est intéressant parce que 1 Corinthiens 12 et 13 nous donne plein de dons. Et en fait, on a tendance à se dire, ah ouais, alors du coup, quel don je dois avoir, quel don je peux avoir, je sais pas quoi. Et pourquoi pas. Mais si c'est juste pour nous intéresser à nous, à nos dons, à des super pouvoirs qu'on pourrait avoir, eh bien, on se trompe totalement dans ce passage parce que ce passage ne parle pas de cela. Il parle du but et de la manière d'exercer les dons. Pour conclure, pourquoi ce modèle de l'Église est-il plutôt bon pour le témoignage? Eh bien, parce que nous vivons dans une société qui a beaucoup de mal à résoudre la question du vivre ensemble. C'est probablement la question sur laquelle les politiciens galèrent le plus. Comment fait-on pour bien vivre ensemble aujourd'hui dans une société multiculturelle, multiethnique, multireligieuse, qui n'existait pas il y a un siècle? Les revendications contradictoires, les intérêts particuliers des uns et des autres sont un casse-tête pour nos élus. Ils ont pour mission de servir le bien commun, mais ils se demandent en fait ce que c'est le bien commun au bout du compte. Soit nos élus imposent une idée tout en étouffant tout particularisme, soit ils favorisent de manière assumée une frange de la population, qui est souvent leur clientèle politique, en donnant malgré tout certains gages aux camps opposés afin de ne pas provoquer une révolte ouverte. Donc nos politiques sont un peu embarrassées. En plus, nous vivons dans un monde postmoderne où il n'y a plus de grandes causes, il n'y a plus de grandes idées qui puissent créer une véritable unité, un véritable élan vers un avenir attrayant. Il n'y a plus ça. On est dans une société individualiste. On pense d'abord à soi et à sa tribu, tout en ignorant le reste de l'humanité. Et face à cette réalité, la version biblique de la communauté est vraiment très, très séduisante, je trouve. On conserve, on entretient les singularités, tout en allant ensemble dans la même direction. Tout État rêve de ça. Dieu l'a fait, avec son esprit, dans l'Église, avec la cohabitation d'âges différents, de sexes différents, de statuts sociaux différents, de cultures différentes, de niveaux intellectuels différents. On assiste dans l'Église à un vrai mélange sans cloisonnement. Et bien sûr, on l'a dit, tout ça, ça ne se fait pas sans difficulté, mais l'essentiel, c'est finalement que tout le monde s'entende sur le fait qu'on cherche une véritable communion et qu'on s'entende sur le fait qu'on veut glorifier le Seigneur Jésus. Alors, glorifions-le avec tous nos dons. Réjouissons-nous de qui nous sommes tous. Faisons-nous des bisous, mais pas tout de suite. Réjouissons-nous de nous saluer et réjouissons-nous du caractère des uns et des autres, même quand ce caractère nous énerve. Jésus aime ça. Glorifions Jésus avec ça. Amen. Je vous invite à chanter le chant « Nous voulons vivre ».